Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Mesdames, mesdemoiselles, un peu de silence, je vous prie, pour votre leçon de jardinage.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est le printemps, votre petit jardin est en effervescence, il ne demande qu'à être travaillé.
La curiosité est un vilain défaut.
Commencez par un bon défoncement. Si votre jardin a été négligé trop longtemps, un labourage en profondeur s'impose.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Elle est un peu spéciale, votre prof de
jardinage.
Oui,
oui, oui, bah c'est pour le jardinage, c'est pour le petit jardin.
Oui.
Et nous, on va en fait sortir de notre jardin, on va aller en ville, ce qui est le quotidien de beaucoup de Français. Et souvent, en ville, on remarque que les crottes de chiens, les papiers gras jetés par terre.
c'est pas très optimiste.
Mais non, mais c'est vrai, vous êtes d'accord, il y a la pollution, la circulation. Mais là, on va ce soir détourner votre regard, vous apprendre à découvrir la nature tout près de chez vous. Bonsoir Nathalie Machon.
Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Vous êtes enseignante, chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle à vos côtés. Éric Motard, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir,
vous
bienvenue.
Vous êtes botaniste à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. On va entrer dans cette ville et regarder un peu autour de nous. On va commencer par un bon vieux copain sur lequel on peut s'adosser
c'est
quand
moi,
on a des peines.
Non, c'est pas moi le bon
non,
vieux copain.
Trop, non, pas trop, non. Vous êtes trop humain pour ça. Ou qu'on peut en serrer quand on a des joies aussi. C'est le chêne. On en trouve partout.
Oui, c'est l'arbre le plus répandu en France, le chêne.
Dans toutes les villes de France, on en trouve quasiment.
Pratiquement toutes les villes de France, beaucoup dans les forêts aussi, évidemment.
Mmh.
Oui, c'est un
pourquoi il est partout ?
Ben, c'est un arbre qui est arrivé il y a longtemps hein, sur le sol français, qui s'est bien plu. Et puis, il y a beaucoup d'animaux qui s'en occupent, qui s'occupent de disperser ses glands, ses graines pour, pour le propager. Et, donc, et puis, il se plaît beaucoup chez nous. C'est vraiment un arbre de chez nous.
Pourquoi est-ce qu'il est précieux, le chêne, pour la nature ?
Alors, il fournit beaucoup de services aux animaux, à d'autres plantes également, et en donnant de la nourriture, en accueillant dans son feuillage, etc.
Ah, il est propice au nid, il est confortable, le chêne.
Il est très confortable, je crois. Et surtout, il nourrit, beaucoup d'animaux, les geais aiment beaucoup les glands.
Ça, c'est chouette.
Il y a que d'autres à manger des glands.
Parce que du coup, il y a des oiseaux dans nos villes, donc c'est bien. Est-ce que, tiens, si je plante un chêne demain, il peut vivre combien de temps ?
Ouh, vous aurez du mal à le voir adulte,
c'est vrai.
Mais il peut vivre 500 ans, 1000 ans, si on le laisse pousser, si on le laisse tranquille, si on lui donne des conditions favorables, ça peut, il peut
durer longtemps. Si on fait les idiots, ils survivront à nous quoi, et à nos villes.
Probablement.
La grande richesse du chêne, c'est aussi son bois. Quel usage on en fait ?
On fait des planches. C'est du bois d'œuvre. Hein. On peut en faire des beaux parquets, des meubles. C'est un bois qui est très dur, qui supporte les mauvais traitements divers et variés. Et donc, on s'en satisfait beaucoup pour faire des meubles.
Donc, le chêne est pratique, il est nourricier pour les animaux. Et puis, nous aussi, on peut l'utiliser, nous les humains, dans la cuisine. Ça, j'ignorais complètement.
Alors, c'est tout à fait anecdotique. Hein. Bon. En fait, c'est pas très bon. Et puis,
bien vendu, franchement.
On viendra manger chez vous.
Moi, je vais noter la recette tout de suite, là.
Il faut surtout le préparer longuement pour enlever tous les tanins qui sont quand même assez désagréables au goût.
Oui.
Bon, il paraît quand même que les Bretons en font une petite boisson.
Mais à partir de quoi ? À partir des glands ?
Oui, à partir des glands.
Ça s'appelle comment ?
La piquette des glands.
Ah, ça, c'est tout nous, les Bretons.
Les Bretons.
La piquette des glands,
trouve
ça bon.
C'est pas moi qui l'ai dit, Sidonie, franchement. Je suis pour rien, j'ai payé personne.
Nous sommes des aventuriers du coup, en Bretagne.
Bon, Nathalie Machon, Éric Motard, vous publiez « Ça pousse près de chez vous ». S'en fiche pour reconnaître arbres, fleurs et autres plantes de nos rues. C'est publié aux éditions Le Passage. Alors, il y a une autre plante à laquelle on ne fait pas forcément attention. Alors moi, déjà, surprise de le retrouver en ville, c'est le buisson ardent. À quoi ressemble-t-il, Éric Motard ?
En fait, le buisson ardent, c'est un arbuste qui est surtout utilisé pour faire des haies, donc dans les jardins, essentiellement. Mmh. Et puis, si on le retrouve partout en ville et un peu partout sur le territoire français, en fait, c'est parce qu'il produit des fruits qui sont très appétants et qui sont mangés par les oiseaux. Et donc, il est dispersé ensuite, les graines sont dispersées un peu partout. Et donc, il peut germer un peu partout en ville, et y compris parfois au faîte des toits.
Parce que c'est un nom très poétique, le buisson ardent.
En fait, et biblique aussi.
Et biblique. Mmh. Et en fait, c'est réduit à faire des haies dans des propriétés et à séparer des maisons.
Oui, pousser sur les toits des villes.
Parce qu'effectivement, on l'appelle buisson ardent, d'une part, à cause de la couleur de ses fruits, donc qui sont rouges, des couleurs chaudes ou oranges. Et puis aussi parce qu'il porte de vraiment de longues épines acérées. Et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs utilisé en haies de défense. Donc.
Est-ce qu'on peut goûter ses fruits ? au buisson ardent, ou alors c'est comme le chêne, apparaît, si on est breton, il vaut mieux s'abstenir.
Alors en fait, c'est très à la mode aujourd'hui. Maintenant, on fait beaucoup de cuisine avec. On essaie de cuisiner un peu tout ce qu'on trouve autour de chez soi. Et donc, il y a bien des cuisiniers aventureux qui essayent de faire des marmelades et des gelées à partir des fruits. Mais bon, c'est des petits fruits, il y a assez peu de pulpe. Faut pouvoir le séparer des graines.
Et je crois que les graines ne sont pas terribles. Hein. Même pas au goût. C'est pas recommandé de les manger.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça peut peut-être même être un peu dangereux. Vous avez goûté toutes les recettes que vous proposez dans votre livre. Vous avez bonne mine, ça va.
Bons scientifiques.
Ça a l'air de s'être bien passé. Il y a une plante qui a, comment dire, un peu moins froid que nous cet hiver. C'est la pensée cultivée. Quel joli mot déjà, quel joli nom, la pensée cultivée. C'est une fleur, évidemment. Aussi, on la retrouve un peu partout en France, sur les ronds-points notamment.
Ouais, elle, c'est la cousine de la violette. Hein. C'est à partir des violettes qu'on a fait les pensées. Les pensées, les horticulteurs, ils ont réussi à faire tellement de pensées de couleurs différentes. Et puis, elle est très facile à cultiver, à propager. Donc, effectivement, les villes aiment bien les mettre sur leur rond-point. Elles passent très bien l'hiver. Donc, voilà.
Mais c'est fou ça, Nathalie. Attendez, ça veut dire que la pensée n'existait pas toute seule. Elle a été créée, c'est une invention de l'homme.
Mais... C'est philosophique ce que vous venez de dire. Je pense qu'il faut enregistrer cette phrase et la rediffuser régulièrement.
Ça, c'est une qualité des Bretons aussi, philosophique malgré soi.
Oui, non, c'est pas mal quand même.
En fait, les plantes ornementales, elles viennent toutes de plantes sauvages qui existaient avant. Ouais. Et c'est les horticulteurs qui ont fait, par la domestication, par des sélections diverses et variées, ont réussi à leur donner des couleurs différentes, des plus gros pétales souvent pour que ce soit plus joli. Et oui, c'est complètement transformé par l'homme, fabriqué par l'homme.
Et donc fabriqué aussi en cuisine. Hein, pour chaque plante, on a une version culinaire. Alors sous quelle forme on peut déguster les pensées?
Alors les fleurs de pensée sont riches en vitamine C, donc elles sont utilisées en salade parce que forcément ça fait des salades vraiment très classe quand on a comme ça une chiffonnade de fleurs de pensée dispersées dessus. Mais elles sont intrinsèquement riches en vitamine C, donc elles ont un intérêt véritablement pour la santé. Voilà.
On peut en faire ça peut remplacer le jus d'orange alors. Sauf qu'il faut beaucoup de pensée pour faire un verre, c'est ça. On va saccager tous les ronds-points de France.
Par définition, arrêtez les fleurs, vous, c'est
arrêtez
pas
tout. Ne partez pas tout de suite cueillir les pensées.
Bon, si la pensée ne vous a pas vraiment convaincu, pour le petit déjeuner, peut-être un peu d'ortie. Elle est partout. Est-elle seulement urticante?
Ça gratte déjà.
Ça m'étonnerait. La réponse dans un instant, les curieux.
Pour satisfaire votre curiosité, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, 20h-22h sur RTL. Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
L'homme a beau construire, bétonner, la nature se ferait un chemin partout dans nos villes. C'est ce que nous racontent nos invités. Nathalie Machon, qui est professeure d'écologie, c'est ça ? Très joli métier. Et Éric Motard, botaniste à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. C'est pas mal non plus. Rien qu'en donnant vos métiers, je me balade déjà et je prends un bol d'air pour découvrir que dans nos villes, il y a des orties. Pourquoi les orties aiment nos villes ?
Alors les orties, elles aiment bien les endroits, elles supportent très bien les endroits pollués par exemple. Donc elles s'implantent facilement dans les villes, elles y restent. Pourtant elles ne sont pas désirées, on peut dire que les citadins leur mènent la vie dure, essayent de les couper, mais elles sont assez résistantes. Et en fait elles ont plein de vertus, elles sont super les orties, elles sont super pour les autres espèces animales.
Pourquoi par exemple ?
Par exemple elles nourrissent des chenilles de certains papillons, des jolis papillons qu'on est content d'avoir dans nos villes, donc c'est pas mal. Et puis, ce sont des plantes qui ont des tas de qualités. Par exemple, elles ont des fibres, donc on peut en faire du papier, du tissu, des cordages. On en faisait, en tout cas. Elles sont très bonnes au goût. On peut faire de la soupe.
C'est vrai que c'est bon, ça. Et la salade d'ortie, c'est délicieux.
Voilà. Alors, le plus difficile, c'est de les cueillir. Il faut y aller avec des gants.
Quand vous dites qu'elle résiste à la pollution, cette ortie, ça veut dire que nous, si on en voit en ville, on peut en cueillir et s'en faire en salade le soir ? Ou quand même, elle retient cette pollution ?
Elles supportent bien les sols qui sont très riches en azote. C'est pas pour ça qu'elles sont pas bonnes à manger. En revanche, ça dépend où elles poussent. Si elles poussent sur un trottoir, là où il y a les gaz d'échappement, etc., c'est pas du tout conseillé. Mais si vous avez des petits chemins à l'écart un peu de la pollution dans des jardins, alors là, faut y aller. Hein. Elles sont pas plus polluées que les salades qui poussent à côté.
Mais c'est urticant.
Et oui, C'est ça le problème. Bah, elles ont développé ça justement pour essayer de se défendre contre les agressions des herbivores. Donc elles ont des petites seringues avec un produit bien urticant dedans. Mais normalement, à côté des orties, pousse le plantain. Et si on se frotte les piqûres d'ortie avec une feuille de plantain, on arrive un peu à apaiser les douleurs.
Elle vit avec son antiseptique, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça.
C'est étonnant, ça.
Il y a l'antidote juste à côté.
Exactement,
c'est super.
Exactement.
Ça ressemble à quoi, le plantain ?
C'est des feuilles rondes, assez coriaces, qui poussent vraiment étalées sur le sol.
Avec des feuilles en forme de cuillère.
Je pense que c'est une plante qui est aussi dans notre guide, que dans ça pousse près de chez vous. Donc.
Vous faites vous-même la
plante. Aux éditions, je vous laisse le faire.
On l'avait pas cité
aux éditions, le passage.
Voilà, ça c'est fait. Alors peut-être que la prochaine citation, ce sera dans 10 minutes. Il ne faut quand même pas exagérer.
Et on découvre aussi le pissenlit, qui est quand même pas la fleur là. C'est pas la fleur la plus romantique, c'est un peu comme l'ortie, c'est un peu une mal-aimée, le pissenlit.
Alors en fait, c'est aussi une plante qui aime les sols riches en azote, donc qui sont assez pollués, qui sont assez riches, comme l'ortie, comme le plantain. Donc c'est fait partie de ces plantes qui résistent bien, je dirais, aux contraintes particulières du milieu urbain. Donc on va la retrouver dans les fissures de trottoirs, jusqu'en plein centre-ville, dans des villes très, très imperméables comme Paris. Et c'est une plante qui est pleine de vertus. Les feuilles et les fleurs sont très riches en vitamine C aussi. C'est une ressource, quand elle est en fleurs, pour tout un tas de petits insectes pollinisateurs. Donc elle a un rôle écologique important, même au cœur des villes.
Mais pourquoi vous dites que c'est pas une fleur romantique ou...
Bon, avec non, un c'est nom pareil, avec un nom pareil, pardon. Mais...
Parce qu'on voit plein de petites filles qui cueillent des jolies petites fleurs de pissenlit.
Les fleurs font pas rêver, mais c'est vrai que le fruit, quand on souffle sur les fruits, comme ça, qu'on voit s'envoler les petits fruits.
C'est ultra poétique, vous avez raison.
Ouais, non, c'est pas une faux. Très jolie plante.
Mais pourquoi ça s'appelle pissenlit ?
Alors, ça s'appelle pissenlit parce que ça a des vertus...
diurétique. Ah ben oui.
Et voilà. Et donc, voilà. Okay. C'est un peu pour ça.
Bon, alors, un bouquet de pissenlit quand même, parce que c'est très joli et d'ortie. Et un bouquet de roses aussi. La rose, on en trouve en ville. Des roses sauvages, non.
Des roses sauvages, pas beaucoup. Peut-être dans certains jardins, le long des voies ferrées oubliées, etc. Mais pas beaucoup. Mais en revanche, c'est la plante ornementale par excellence qui a été mise au point depuis des siècles et des siècles, voire des millénaires.
Elle vient de qui ? Elle vient de quelle plante et de quelle fleur, la rose, vous savez ?
Bah, c'est de la...
Oh là, il y a de savantes hybridations entre plusieurs espèces. Et aujourd'hui, il y a une infinité de variétés de roses. Quoi. Donc... on peut difficilement dire, voilà, telle rose a tel pédigré. Hein.
Et la rose a des vertus aussi médicinales,
bien sûr,
par exemple.
Particulièrement pour soigner les problèmes de peau, l'hermatite en général.
C'est très cicatrisant, la rose.
Oui, tout à fait. L'eau de rose,
l'huile de rose, musquée.
Voilà, puis on s'en sert énormément en parfumerie, bien sûr.
Bon, alors moi, je vois souvent des coquelicots. Dans la ville, c'est joli, c'est une petite bulle là, de nature. Pourquoi ? Parce que c'est une plante résistante. En fait, c'est ça le point commun de toutes ces plantes ?
Oui. Alors là, les plantes qui poussent en ville, c'est celles qui arrivent à résister à toutes les agressions possibles et imaginables, y compris les arrachages, hein, parce que régulièrement, on les arrache. Mais elles font plein de graines, souvent, et puis elles repoussent, donc voilà.
Je vous interromps, comment c'est possible qu'elles se feraient un chemin dans presque une anfractuosité dans le bitume ?
Il suffit qu'une graine se trouve dans un endroit avec un tout petit peu de sol et un petit peu d'eau, et elle pousse. Et si elle n'est pas trop exigeante,
Éric Motta.
Et pour l'exemple particulier du coquelicot, c'est une plante justement qui fait des graines absolument minuscules. Donc elle peut vraiment germer dans des interstices. Donc
Elle vit longtemps, la fleur de coquelicot ?
Ah bah, chaque fleur de coquelicot ne vit qu'une journée. Maintenant, un coquelicot, ça vit longtemps et ça fait plein de fleurs
Mais
tout au long de la saison.
Ah, ça fane et, ah ça, oui. Et ça refleurit le lendemain ?
Bah, c'est une autre fleur qui fleurit le lendemain.
C'est
Mais
unique,
vous
ça
avez vu que les pétales, ils sont tellement fragiles qu'ils voilà, ils durent pas longtemps du tout.
C'est unique, ça, dans le monde des fleurs, ces fleurs qui fanent le jour et qui repoussent et qui refleurissent le lendemain.
Tout est possible dans le monde végétal.
Voilà, c'est pour ça qu'on se passionne pour ce monde végétal dans nos villes. Tiens, si je vous offrais quelques tulipes, si Denis,
j'adore ça. J'aime
ça
beaucoup les blanches ou les jaunes.
Je vais essayer d'en trouver.
Si je puis me permettre de vous guider un peu.
Je vais essayer. À tout de suite sur RTL.
La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, 20h-22h sur RTL. Vous écoutez RTL. Pour satisfaire votre curiosité, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, sur RTL.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On se balade dans nos villes, on a oublié la pollution, le bruit, parfois un peu de saleté. On se concentre sur le vert, là, regarder la nature avec nos guides. Nathalie Machon qui est professeure d'écologie et Éric Motard qui est botaniste à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Cette nature, vous nous avez dit, elle arrive, elle est persistante, elle est volontaire, elle arrive à rester et à pousser comme le coquelicot par exemple dans nos villes. Mais est-ce que quand même la pollution a eu des effets négatifs sur le développement de cette nature ?
Alors, elle sélectionne terriblement les espèces qui peuvent s'installer en ville, ça on l'a dit tout à l'heure. Et après, même celles qui sont en ville, il y a des endroits où elles ont du mal à survivre. Par exemple, la pollution à l'ozone, ça donne des taches sur les feuilles, c'est pas très bon pour elles non plus. Il y a beaucoup de polluants qui atteignent évidemment les plantes.
Ça veut dire qu'on a vu disparaître des espèces, je sais pas, sur ces 40 dernières années, on dit qu'on n'a jamais été aussi pollué. Des espèces qui ont disparu de plantes.
En tout cas, la pollution a changé.
La pollution a changé. En fait, je pense que le moment le plus critique pour les plantes, c'était il y a quelques années, il y a quelques même dizaines d'années, où on utilisait beaucoup de produits phytosanitaires en ville, des pesticides de toutes sortes, des herbicides. Et là, c'est en train de s'arrêter. La ville de Paris a tout à fait arrêté. Il y a beaucoup de villes en France qui ont arrêté les produits phytosanitaires.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que les abeilles sont nombreuses.
C'est bon pour eux, c'est bon pour les abeilles, c'est bon pour les plantes. Ouais. Et on voit refleurir nos trottoirs et c'est assez récent.
En fait, je pensais à la pollution des voitures, par exemple.
La pollution des voitures, elles apportent des nitrates et il y a beaucoup de plantes qui aiment bien ça.
Ah,
donc c'est pas tellement mauvais pour les plantes, c'est beaucoup plus nocif pour nous.
Alors vous publiez Ça pousse près de chez vous, sans fiche pour reconnaître arbres, fleurs et autres plantes de nos rues aux éditions Le Passage. Parmi les merveilles que vous nous faites découvrir, il y a des tulipes, les narcisses et les jonquilles. Et en fait, c'est une famille tout ça, c'est ça ?
En fait, oui, c'est un ensemble d'espèces qui ont un ancêtre commun qui n'est pas si ancien que ça dans l'histoire du développement des espèces.
C'est... Ça veut dire qu'il y a une fleur qui ressemblait un peu à toutes ces fleurs.
Tout à fait.
C'est marrant,
le mot savant que vous alliez dire ?
Non, je parlais d'arbre phylogénétique, mais bon, voilà.
C'était... Ouais, phylogénétique, c'est ça.
Ouais. Ah,
on aime bien apprendre des jolis mots aussi. Donc, c'est la même famille. C'est quoi leur grand talent à cette famille-là, à ces tulipes, ces narcisses, ces jonquilles ?
Elles sont très utilisées en ville, dans les massifs, parce qu'elles ont des fleurs de toutes les couleurs. Comme en ville, elles ont été. Enfin, les obtenteurs, les horticulteurs ont vraiment créé une grande quantité de variétés. En fait, ils jouent sur des palettes de couleurs qui sont quasiment infinies. En fait, donc aujourd'hui, on dispose d'une infinité de variétés.
Hein, oui, on peut même pas les comptabiliser tellement il y en a.
Et en plus, c'est un nombre qui est en mouvement permanent parce que la création elle persiste.
Et il y a des plantes sur lesquelles c'est plus facile de justement s'amuser de créer. Que d'autres ?
Oui, ça dépend un peu des facilités de culture. Hein. Il y a des plantes qui se prêtent bien à la culture, par exemple ce qu'on appelle la culture in vitro, qui permet à partir d'une plante de faire des milliers de petits descendants. Et donc ces plantes-là, elles sont beaucoup plus faciles à perpétuer, à modeler pour en faire plein de variétés très jolies, que d'autres plantes qui sont plus difficiles à cultiver.
Avant, fallait des insectes, des oiseaux, des abeilles pour polliniser et pour faire l'hybridation.
On s'occupe de tout maintenant.
Ça, c'est toujours d'actualité.
Ça marche encore.
Il y a une plante un peu pot de colle dans nos villes, mais qu'on aime bien quand même, c'est le lierre. Est-ce qu'il est forcément grimpant ?
Alors, il y a l'espèce de lierre grimpant, elle est grimpante, oui. Il y a des lierres qui ne sont pas grimpants, qui ont d'autres noms. Il y a le lierre terrestre, qui n'est pas du tout de la même famille, mais qui reste par terre, lui. Donc, elle est grimpante, oui, c'est ça. Elle grimpe au mur, elles ont besoin d'un support pour monter.
Mais comment ils s'attachent ?
Elles ont des petits crampons. Et d'ailleurs, on le sait, quand on essaye de les enlever, c'est assez difficile. Parce qu'on pense souvent que le lierre, il étouffe ou il vit aux dépens des supports sur lesquels ils sont. En réalité, non. Hein. C'est une plante autonome qui fait, qui fait, qui s'occupe d'elle ouais. toute seule.
Il faut
mais...
toujours bien distinguer le phénomène. Enfin, c'est les plantes grimpantes, les plantes dites qui ont besoin d'un support et le phénomène de parasitisme qui n'a rien à voir. Oui. C'est-à-dire qu'un arbre, un lierre peut grimper sur un arbre, il n'a absolument pas besoin de l'arbre pour vivre. Il puise ses ressources dans le sol exactement comme n'importe quelle plante.
Et il n'étouffe pas l'arbre.
Ouais. Et il n'étouffe pas l'arbre.
Et un lierre, ça ne met pas en danger les murs d'une maison, par exemple. On peut le laisser pousser.
Les crampons, ça grippe quand même au revêtement. Hein, donc, quand on essaye de les arracher, le revêtement peut partir avec. Maintenant, ça a aussi d'autres propriétés. C'est, en couvrant le mur, ça a des propriétés thermiques, phoniques. Quand il fait très chaud l'été, par exemple, le lierre, il tamponne beaucoup la température. Hein, ces plantes grimpantes qui habillent les murs, elles sont un peu difficiles pour leurs vêtements, mais elles sont quand même utiles.
Et l'hiver, ça crée une couche limite, ce qu'on appelle une couche limite, qui isole du vent. Donc, vous avez aussi un isolant thermique pour le froid.
Est-ce que ce lierre, on peut le faire entrer dans nos maisons ? Est-ce qu'il nous sert à quelque chose dans la cuisine, par exemple ?
Moi, j'ai un pot de lierre dans mon salon. C'est une plante que j'aime bien.
Et il pousse tranquille.
Il pousse tranquille comme une plante en pot, quoi. Et il ne grimpe pas au mur, celui-là. Je ne le laisse pas quand même envahir tout mon
de
salon.
De temps en temps, vous lui faites... Tu vas pas par là, c'est ça ?
Exactement.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le lierre, c'est comme le chêne. Hein. C'est une plante qui abrite énormément d'espèces qui est fondamentale. Et surtout, il a une curiosité biologique qui lui est propre dans toute l'Europe de l'Ouest. C'est qu'il fleurit et il fructifie à contre-saison par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il va fleurir tout à fait à la fin de l'été, alors que toutes les plantes sont en fruits. Et il va fructifier au cœur de l'hiver, au moment où il n'y a plus de ressources pour les oiseaux. Donc c'est vraiment une espèce qui est fondamentale pour notre écosystème.
On a commencé avec notre balade en ville avec un arbre très solide, le chêne. On va finir avec un autre arbre, le platane. Il est très courant aussi dans nos villes et très résistant.
Oui, il a été beaucoup, beaucoup planté. Alors, il n'est pas très résistant du tout. Hein. Il est même là attaqué par une maladie. Et donc, on est obligé de couper des centaines de platanes pour des raisons de sécurité. Donc, il n'est pas très résistant. Mais c'est un arbre qui a été beaucoup apprécié et qui donc a vraiment été planté de façon, même trop. Parce que maintenant qu'il y a une maladie, elle se propage très facilement du fait qu'il y a tous ces individus les uns à côté des autres. C'est un peu dommage.
Et c'est un arbre qui a beaucoup souffert aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ?
Effectivement, c'est le moment où on a apporté, où vraisemblablement les Américains ont apporté un champignon qui lui est assez néfaste en apportant des armes dans des caisses en bois.
Ah oui, ils n'ont pas seulement apporté les chewing-gums, on racontait ça la semaine dernière, que les GIs distribuaient les chewing-gums, ils ont aussi apporté un champignon qui a détruit nos platanes.
Bon, voilà, c'est bien, je pense qu'ils n'ont pas trop fait exprès.
Mais heureusement, ils étaient là quand même.
Merci beaucoup Nathalie Machon et Eric Motta. On retrouve des infos, des photos, des fiches pratiques dans votre livre « Ça pousse près de chez vous », c'est aux éditions Le Passage.
Voilà, vous connaissez cette petite musique, c'est la fin de notre curiosité. On vous donne rendez-vous demain. Vous pouvez avant ça nous réécouter en podcast sur rtl.fr. Alors c'est quoi le programme demain, Sidonie ?
Demain, 20h, on va vous raconter la révolution russe, c'était il y a 100 ans, et puis aussi comment une ville postule aux JO, aux Jeux Olympiques. C'est assez compliqué, vous verrez.
Oui, tout de suite, c'est l'heure des infos. On retrouve la rédaction de RTL pour RTL Grand Soir RTL. Il est 22h.
Vous écoutez RTL.